Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin et voilà, toujours heureux de venir effectivement en famille rendre visite à notre église sœur. Et je salue celles et ceux que je ne connais pas encore, ou pas encore toutes. Et voilà, donc ça fait quelques années maintenant que je viens régulièrement pour pouvoir justement visiter l'église et puis aussi apporter la parole et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Donc je suis pasteur de l'église de Lagny depuis 10 ans maintenant. Et puis maintenant avec Philippe, on se croise de plus en plus puisqu'on est dans nos conseils d'union d'église respectifs. Et donc voilà, donc, il m'a proposé de venir encore ce matin. Alors j'ai envie de vous parler d'un sujet, donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, se revêtir de l'homme nouveau. Et il y a vraiment un texte très riche sur cette notion. Et c'est une notion qu'en fait tout chrétien, non seulement devrions comprendre, mais aussi puissions transmettre cette grâce à d'autres. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire se revêtir de l'homme nouveau? Comment le vivre, mais aussi comment aider mon frère et ma sœur à le vivre? Nous avons tous eu des frères et sœurs, ou même peut-être dans notre vie personnelle, des moments où on se dit, mais comment faire pour se débarrasser de tels péchés? Comment faire pour retrouver cette joie en Jésus? Et ici, l'apôtre Paul va nous aider justement à traiter de cela. Et je vous propose donc de prendre la parole de Dieu en Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, et on va lire ensemble les versets 17 à 31. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 31. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous les effets des désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit de votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites la vérité à chacun à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns vers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Amen. J'ai encore prié, les amis. Merci notre Dieu pour ta parole. Merci pour cette grâce immense que nous avons, dimanche après dimanche et aussi au long de la semaine, de recevoir ta parole, de pouvoir la méditer, pouvoir la comprendre, pouvoir être transformé par elle. Merci notre Dieu parce que c'est toi qui te révèles et je te prie encore qu'il en soit ainsi ce matin, que tu continues à te révéler dans la vie dans nos vies personnelles, dans la vie des frères et sœurs, que ce soit encore toi Jésus qui interpelle, parle, corrige, inspire, encourage, relève. En ton nom, Jésus. Amen. Alors, je vous propose de regarder ensemble deux parties dans ce texte. Une première partie où il va nous parler de fuir la vie sans Dieu et de se revêtir de la vie nouvelle en Jésus, les versets 17 à 24. Une deuxième partie où il va nous donner des exemples pratiques pour justement se débarrasser du vieil homme et de se revertir de cette vie nouvelle. Deux parties, les versets 17 à 24 et ensuite les versets 25 à 31. le principe de fuir la vie sans Dieu et de se revêtir. Et deuxième partie, des exemples pratiques sur comment se débarrasser de ce vieil homme et se revêtir. Et un résumé simple, débarrassons-nous de toute pratique et impure, malsaine et impure, et revêtons-nous de la vie nouvelle en Jésus. Voilà un peu l'essentiel de ce que nous allons voir ce matin. Alors, juste pour donner un peu quelques éléments de contexte, la lettre aux Éphésiens a été écrite par l'apôtre Paul pour cette jeune communauté. Hein. C'est une jeune communauté. C'est vrai qu'aujourd'hui, on lit la Bible, on voit, on se dit, bah, tiens, ils étaient peut-être chrétiens depuis des générations, générations. Non, non, c'est pour certaines lettres, c'est vraiment les premiers chrétiens. Ils n'ont pas l'historique qu'on a. Ils n'ont pas Martin Luther avant eux. Ils n'ont pas l'insubite de nos gens. Ils n'ont pas toutes ces historiques-là. Et donc, cette lettre-là, c'est vraiment pour eux un enseignement solide qui va les aider à comprendre ce en quoi consiste la vie chrétienne et comment la vivre. Et donc là, Paul veut encourager cette jeune communauté chrétienne qui est entourée de païens, entourée d'hommes et de femmes dans la société de l'époque qui vraiment ne pratiquaient pas du tout ce que Dieu voulait, n'avaient pas de culture chrétienne du tout. Et il leur propose de comprendre ce que Dieu est en train de leur faire vivre et il est en train de leur rappeler la beauté de ce que Dieu a fait dans leur vie. Donc il leur a rappelé dans les premiers chapitres le projet merveilleux de Dieu pour le croyant et son peuple. Il leur dit déjà en Jésus, vous avez une nouvelle identité, vous qui êtes croyant. Vous êtes enfant de Dieu, vous avez une relation les uns avec les autres et vous êtes sauvés. Et vous avez aussi une nouvelle vie qui vient du Saint-Esprit, qui vient de la grâce du Seigneur. Et donc ça, tout ça, c'est vraiment les premiers chapitres, les chapitres 1 et 2 jusqu'au verset 10. Il y a cette nouvelle identité que vous avez en Jésus, vous êtes sauvés par la grâce et Dieu a préparé des bonnes œuvres pour vous. Et ensuite, il va aussi leur rappeler que désormais, ils ont une nouvelle communauté. Vous êtes une nouvelle famille, une nouvelle communauté réconciliée avec l'amour au centre, avec l'œuvre de Jésus-Christ d'amour au centre et avec la vérité où c'est Dieu lui-même qui habite au milieu de vous. Et donc, il leur dit, voilà ce que vous êtes désormais depuis que vous êtes en Jésus-Christ. Et avec peut-être ce verset aussi clé que j'aimerais nous donner, en lui, par son sang, Éphésiens 1, 7 et 8, nous sommes rachetés, donc en Jésus, conformément à la richesse de sa grâce, pardonnés de nos fautes. Paul montre que ce qui permet toute cette identité, ce qui permet toute cette vie nouvelle, ce qui permet cette nouvelle communauté, c'est ce que Jésus a fait et le fait qu'on soit unis à Jésus. C'est vraiment le fondement de la foi chrétienne, le fondement de la communauté. Par son sang, par le sang de Jésus, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Et déjà ce matin, c'est à nouveau un encouragement quand on vient à l'église, et je ne sais pas si certains sont peut-être de visite, que nous puissions à nouveau nous réjouir du sang qui a coulé pour chacune et chacun d'entre nous, qui fait que nous puissions être entièrement pardonnés. J'aime bien utiliser l'image du casier judiciaire. Il était plein et il est vide désormais. Je viens de demander récemment pour... l'extrait de mon casier judiciaire, même si je savais qu'il était vide, ça avait toujours plaisir de le recevoir et le voir vide. De dire, ouf, c'est bon, il n'y a rien eu entre-temps. Eh bien, avec Jésus, notre casier judiciaire est entièrement purifié. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Devant Dieu, tout ce que nous avons fait, toutes les mauvaises actions, les mauvaises pensées, parce que Jésus-Christ a payé le prix et que nous avons pu reconnaître son œuvre, eh bien, nous sommes purifiés et notre casier judiciaire est vide. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que non seulement il nous donne sa grâce à travers ce pardon, mais en plus il nous donne avec abondance. Et voilà ce que Paul a présenté tout au long de ce premier chapitre. Et c'est important de se le rappeler parce que par la suite, Paul va les exhorter à se revêtir de l'homme nouveau et se dévêtir du vieil homme. Mais il est important que nos amis se rappellent de ce qu'ils ont vécu avant, pour pouvoir comprendre combien c'est important de ne plus rentrer dans nos anciennes pratiques. Et il va justement, à partir du verset 17, leur rappeler ce que les chrétiens sont censés fuir. Fuyons cette vie sans Dieu, manifestée par l'impureté et par le vice. Regardez ce qu'il dit si on reprend le verset 17. Vous ne devez plus vivre comme les non-croyants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se laissent guider par la sottise de leurs pensées, des pensées qui ne sont pas celles que Dieu aime. On appelle bien ce qui est mal, mal ce qui est bien. on revoit tout le rapport de l'humanité au mal et au bien, on a l'impression que tout devient relatif et chacun peut dire, bah, tiens, moi je trouve ça bien, toi moi je trouve ça mal. Ils ont l'intelligence obscurcie, dira la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas la capacité de voir ce qui est bon selon Dieu. Ils ont une ignorance en eux, leur cœur est endurci. Et il va aller même aller plus loin, il va expliquer pourquoi, parce qu'en fait, ils sont étrangers à la vie que Dieu donne. Et dans Éphésiens chapitre 2, Paul va rappeler qu'en fait, ce descriptif qu'il fait, parfois on peut avoir peut-être un regard en disant « Ah oui, ça c'est les non-chrétiens, ils sont tous ça. » Mais en fait, il dit au chapitre 2, verset 1, il dit « Vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés. » En fait, on faisait tous partie de cette réalité. Il dit que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Et Paul lui-même va se mettre dedans, regardez verset 3 du chapitre 2. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre propre condition même, destinés à la colère de Dieu, tout comme les autres. Et oui, les amis, l'attitude de ce monde, eh bien, pousse les hommes à aller dans une direction qui n'est pas la bonne et suscite la colère de Dieu et un rapport de rébellion entre Dieu et l'homme. On perd tout sens moral, on se livre à la débauche, à l'inconduite, on commet avec avidité toutes sortes d'impuretés, de vices. Cette phrase de la parole de Dieu est assez interpellante. Elle dit « L'amour de l'argent est racine de tous les maux. » Et c'est vrai que quand on y réfléchit, est-ce que vous pensez que des gens seraient prêts à voler pour de l'argent? Bien sûr. Seraient prêts à mentir pour de l'argent? Bien sûr. Seraient prêts à tuer pour de l'argent? Oui. Effectivement, la parole de Dieu nous rappelle que la cupidité, l'avidité, l'amour de l'argent peut amener à toutes sortes d'impuretés et de vices. Voilà un tableau que l'apôtre Paul rappelle à ses Éphésiens, de dire « Attention, fuyons cette vie !» Et pour nous aussi ce matin, débarrassons-nous de tout cela, fuyons tout ce que Dieu n'aime pas, tout ce que nous savons que Dieu ne veut pas, en particulier si nous nous disons « croyant en Jésus ». Et cela commence par, vous avez vu, la pensée, la façon dont nous réfléchissons, la façon dont nous voyons les choses, la façon dont nous voyons les autres. Une des choses que le monde va nous dire, c'est que ton bonheur est dans ta carrière, par exemple, ou ton bonheur est dans le montant de ton compte en banque, ou ton bonheur est dans le nombre de personnes avec qui tu vas coucher, ou ton bonheur est dans la réputation que les autres vont donner de toi. Et quand tu as la pensée, tu vas ensuite agir, n'est-ce pas? Si je vous dis que ton bonheur et dans le fait que tu vas porter des chaussettes rouges tous les jours, vous allez dire « Ah d'accord, ben je vais acheter des chaussettes rouges, n'est-ce pas ?» Ça va faire un mouvement d'action. Et donc quand je me trompe dans la pensée, ben, je vais me tromper dans l'action qui est bonne. C'est pour ça que la parole de Dieu nous pointe vers cette pensée. J'aime cet adage qui dit « Sème une pensée et tu moissonneras une action. Sème une action et tu rassemblas une habitude. Sème une habitude et tu récolteras un caractère. » Sème un caractère et tu récolteras un destin. C'est de la pensée que les choses derrière vont s'orienter. Et le Seigneur nous dit dès le départ, fuyez déjà la façon de penser de ce monde et la façon d'agir de ce monde. Et pour nous rappeler qu'un chrétien qui justement ne fuit pas cela, cela non seulement attriste Dieu, mais aussi est en incohérence avec ce que nous sommes. Je me rappelle quand j'étais à Madagascar, on avait des chiens, donc j'en ai plus maintenant, mais à l'époque j'en avais beaucoup, surtout on avait des grandes cours, hein, beaucoup de choses à Madagascar se font dehors. Et donc il y avait toujours le moment un peu redouté, tant par le chien que par le maître, c'était le moment du bain. Attention, il faut aller laver le chien. Et donc, bon ben voilà, on va le courir après, je l'amène et je dois le frotter, on lui met tous les produits qu'il faut. Et voilà, et puis on passe des temps, on essaie de le tenir et puis t'entends qu'il est en train de se plaindre parce qu'il ne veut pas être mouillé. Donc voilà. Et à la fin, tu es trop content. Enfin, tu as gagné, tu vois ton chien qui redevient complètement blanc, par exemple, s'il était blanc. Tu le vois vraiment propre et tu es tout content de le voir. Mais le moment qui est vraiment le plus triste, c'est quand après tu le vois oublier qu'il est propre et qu'il allait se mettre par exemple dans la boue directement. Et là tu dis, ah non, tout est à refaire. Et j'aimerais donner cette image pour nous rappeler que, en fait, quand on est venu à Jésus, les amis, vraiment le Seigneur, alors désolé pour la comparaison avec un chien, hein, mais en fait, il nous a purifiés. Il nous a complètement lavés de tous nos péchés. Et il y a vraiment cette belle victoire qu'il nous donne. Il dit, voilà, tu es purifié, tu es pardonné, tout ça, j'oublie. Et il ne veut pas de ce fait qu'on revienne dans nos anciennes pratiques, dans nos anciennes habitudes. Et donc, c'est pour ça qu'il nous encourage de nous dévêtir, mais pas juste de nous dévêtir, mais aussi de nous revêtir. Et l'expression qu'ils vont utiliser ici, vous avez vu, il dit, ce n'est pas ainsi, verset 20, que vous avez appris à connaître Christ, si du moins vous avez appris, c'est en lui que vous avez écouté, vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. Verset 22, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous les effets de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Elle dit, vous n'êtes pas de cette ancienne pratique, vous êtes de ces hommes et ces femmes qui ont connu Jésus, qui grandissent à sa ressemblance et qui ont appris à se dévêtir et se revêtir. Et justement, j'aimerais parler de cette notion de se dévêtir et se revêtir. Comment faire? Comment faire pour vivre cette vie nouvelle? Et je vois trois étapes qui sont bien décrites ici. La première, il dit, on se débarrasse du vieil homme, notre ancienne manière de vivre qui se détruit. La deuxième, il dit, on se laisse renouveler par l'esprit de notre intelligence. Et la troisième, si on se revêt de l'homme nouveau. Vous avez vu, c'est trois étapes, là, dans les versets 23, 22, 23 et 24. Se débarrasser du vieil homme, qu'est-ce que ça veut dire? Et ces éléments-là, les amis, ils sont pour nous, comment nous débarrasser de tout ce qui peut encore souiller nos cœurs? Peut-être qu'il y a même des péchés dans lesquels nous sommes et nous voyons que nous revenons et nous re-revenons et nous re-revenons. Pour certains, ce sera peut-être la colère. Pour d'autres, ce sera peut-être l'immoralité sexuelle. Pour d'autres, ce sera peut-être la paresse. Ce sera peut-être un amour trop fort pour l'argent. Et vous savez que Dieu n'aime pas ça, mais vous retombez encore. Eh bien, la parole de Dieu nous montre comment faire. Trois étapes. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi aider d'autres à le vivre. Premièrement, il faut reconnaître qu'il y a un problème. Oui, c'est vrai, je reconnais que je me mets souvent, trop souvent en colère. Je suis trop agacé par les autres. Deuxièmement, on se repent. Je demande pardon au Seigneur. Et troisièmement, se débarrasser, renoncer, c'est vraiment dire, je décide d'arrêter. Je décide de renoncer à cela. Très souvent, dans ma vie ou dans la vie des personnes que j'accompagne, on peut identifier qu'il y a un problème. Ouais, c'est vrai que ce n'est pas très bien, etc. On peut demander pardon au Seigneur. Mais est-ce qu'on dit, désormais, aujourd'hui, je décide de ne plus le pratiquer? De ne plus me mettre en colère? Non, mais Ruben, tu connais mon voisin, franchement, tu es obligé de te mettre en colère avec lui. Non, non, on décide de ne plus le faire. Quoi qu'il arrive, si tu reconnais que c'est mal, eh bien dis, je ne veux plus le faire. Je ne veux plus tricher, je ne veux plus aller sur ces sites internet, je ne veux plus parler de cette façon. Je décide d'arrêter, de renoncer aux œuvres associées. Deuxièmement, c'est se laisser renouveler par l'esprit de notre intelligence. Eh bien, c'est se laisser transformer parce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce qu'elle dit de toi, la parole de Dieu, sur la colère? Qu'est-ce qu'elle dit sur ton prochain? Ton prochain est quelqu'un que tu es censé aimer, qui est quelqu'un de la valeur aux yeux de Dieu. Sur l'argent, l'argent est un bon moyen, mais une mauvaise idole. Sur Dieu, Dieu est saint. Sur le péché est grave, etc. etc. Donc c'est prendre la parole de Dieu et se laisser renouveler dans mes pensées. Sur ce sujet dans lequel je lutte, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Quelles sont les vérités qui sont apportées? Et il dit, se renouveler par l'esprit, c'est se laisser guider par l'esprit. Que ce soit toi, Seigneur, qui m'accompagne. Et un des textes ici intéressant, c'est que au verset 30, vous avez vu, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, on ne veut pas l'attrister. » Se débarrasser, se laisser renouveler, et troisième partie, se revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. On veut agir en conformité avec ce que nous savons être bon. Je ne veux pas être en colère, mais je veux exercer et pratiquer la patience. Je ne veux plus être dans l'immoralité sexuelle, mais je veux être dans la pureté des pensées et dans l'amour de Dieu. Je vois ce que Dieu n'aime pas, je m'en débarrasse, mais je me revais de ce que Dieu aime. Être proactif dans le bien. Ça veut dire que non seulement je me débarrasse de ce que Dieu n'aime pas, mais je fais ce que Dieu aime. Vous connaissez cette phrase ? Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Vous connaissez ça ? Vous savez, ça vient d'où ? Alors, il y a certaines religions qui l'ont. Par exemple, l'islam a ça. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Mais la parole de Dieu, elle ne dit pas ça. Elle dit, fais aux autres ce que tu voudrais qu'elle te fasse. C'est intéressant, hein ? La perspective, les deux sont bons. Il y en a une, elle t'encourage à te débarrasser. La parole, elle t'encourage à te remplir, d'être en action vers. La parole de Dieu nous dit, oui, ne te mets pas en colère, ne maudis pas l'autre, ne l'insulte pas. Mais elle va plus loin que cela. Elle dit, vous connaissez la suite, fais-lui du bien, bénis-le. Prie pour lui. Elle t'aide à te débarrasser d'une chose, mais elle remplit le vide qui vient de se créer par une autre. Et il y a une puissance derrière. Vraiment, je me rappelle de cette scène où Priscilla avait été en contact avec une personne et il y avait eu une tension parce que la personne l'avait malmenée. C'était une personne qui avait une autorité et elle l'avait malmenée. Et vraiment, elle n'avait pas été correcte avec Priscilla. Et donc Priscilla rentre. Et vraiment, elle était affectée. Et je me dis, bon, attends, je vais aller la voir, je la connais, je vois où elle est, etc. Et je me suis dit, je vais aller la voir. Et là, Priscilla, elle s'arrête et elle dit, attends, non, j'ai envie de la bénir. Ah ouais. Elle prie pour elle et après, elle achète un cadeau pour cette personne et elle lui donne. Et là, je me suis dit, ok, donc c'est ça. Et la puissance derrière, non seulement Priscilla, ça l'a libérée, mais en plus, devant Dieu, ça a été un acte qui a fait du bien. Et donc, il y a cette notion de je me débarrasse, mais je me revais de ce que Dieu aime et j'essaie d'être en pro-action, en action dans ce que Dieu veut. Et évidemment, se revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu, c'est je veux dépendre de Dieu qui est la source de mon être. Voilà trois étapes, les amis, pour se dévêtir et se revêtir. C'est je me laisse, je me repens, je vois que j'ai un problème, je me repens, je demande pardon. Je décide d'arrêter. La deuxième étape, c'est je me laisse transformer parce que la parole de Dieu dit de la réalité. Parce que parfois, je peux décider d'arrêter, mais je n'ai pas vraiment la conscience de ce que Dieu a dit. Et la troisième, c'est que j'agis en conformité avec ce que nous savons être bon. Voilà les trois éléments. Et dans la suite, c'est exactement ce que Paul va décrire. Vous avez vu toute la liste qui va arriver du verset 25 au verset 31. En fait, il va nous donner cinq exemples de comment se débarrasser, se laisser renouveler et se revêtir. Je vous prends le premier verset. C'est pourquoi, en plus il dit c'est pourquoi, débarrassez-vous du mensonge, dites la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Il vous dit, le mensonge, c'est pas bon, donc tu arrêtes, et vous rappelez, on demande pardon, etc. Tu dis la vérité, donc désormais, puisque tu t'enlèves le mensonge, tu dis la vérité. Et ce qui doit te motiver, c'est de te rappeler que ton frère, ta sœur, c'est ta même famille. Vous êtes un corps. Donc, ta motivation doit être renouvelée et c'est ce qui va te pousser à bien agir. Et il va le faire après. Ne vous mettez pas en colère, ne volez pas, ne dites pas des paroles malsaines, faites disparaître tout cela, amertume, colère, irritation. À chaque fois, il a se débarrasser du vieil homme, revêtir l'homme nouveau et être transformé dans ta façon de penser. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez interpellant. Et donc, quand vous accompagnez quelqu'un aussi, voyez avec la personne, pas juste, il faut que tu arrêtes de pécher, il faut que tu arrêtes de mentir, il faut que tu arrêtes de faire ceci, il faut que tu arrêtes de faire cela. C'est vrai, c'est important. Mais accompagnez-le dans le renoncement. Tu décides d'arrêter, de choisir des œuvres qui désormais honorent Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire en opposé de cela ? Et de l'accompagner à être renouvelé dans sa pensée, dans qui il est, dans ce qu'il fait et dans ce que Dieu est pour lui. Donc peut-être que si vous pensez à une personne, quelqu'un vous accompagne, n'hésitez pas à avoir cette démarche que la parole nous présente. Je vous présente rapidement les quelques éléments que nous voyons justement dedans pour pouvoir un peu plonger dans ces quelques versets. Je peux juste regarder. David, il me reste combien de temps? Bon, attention, c'est dangereux de dire ça à un prédicateur. Hein. T'as le temps, ok. Vérité plutôt que le mensonge. Donc ça, c'est assez clair. Attention, et en demandant pardon au Seigneur pour toutes les fois où justement on va mentir. Souvent, on va mentir parce qu'on a peur. Faisons confiance à notre Seigneur. C'est lui qui est le prince de la vérité, l'ennemi est le prince du mensonge. Et gardons une connexion avec les autres parce que le mensonge crée une distance avec l'autre parce qu'on a le mensonge qui vient de se rentrer entre nous. La maîtrise de soi plutôt que la colère. Alors, ce qu'il dit, très intéressant ce verset, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne laissez aucune place au diable. La colère. C'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent nous pousser à nous mettre en colère. L'injustice, vous assistez à une scène et vous voyez vraiment, je ne sais pas, un enfant qui est battu, ou vous entendez des choses qui se passent dans les pays persécutés où l'injustice vraiment règne. C'est normal qu'on se mette en colère. Non, c'est injuste. Pourquoi ça se fait comme ça? Et on veut considérer cela. Mais quand même, la parole de Dieu nous dit que la colère peut trop souvent déboucher sur le péché. Vous connaissez ce verset qui dit « La colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Et un verset aussi nous rappelle que la colère, c'est une façon aussi de perdre contrôle de soi-même. Et il y a une expression que j'avais entendue qui disait « Le colérique ne prie pas, non pas que ta volonté soit faite, Seigneur, mais que ma volonté soit faite. » Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand je me mets en colère, c'est que les choses ne se font pas comme je le veux, n'est-ce pas? Je perds contrôle sur une situation, je me mets en colère. Et donc ça ne s'est pas fait comme je voulais. Et on accumule des frustrations, des sentiments d'injustice, et c'est là qu'on doit se poser la question, mais d'où vient cette colère? Seigneur, aide-moi à comprendre cela. Et ce qui va nous aider à ne pas nous mettre en colère, ben c'est ces paroles que le Seigneur nous dit ici. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il faut la gérer tout de suite, la colère. Il ne faut pas la laisser s'envenimer. Proverbe 16, 32, la lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que de s'emparer de ville. On voit que la parole de Dieu met en avant la maîtrise de soi plutôt que de se mettre toujours en colère. Merci Seigneur pour le fruit de l'esprit. Il y aura deux éléments dans le fruit de l'esprit qui vont nous aider à faire face à cela. Le fruit de l'esprit, c'est la patience et la maîtrise de soi. Quels sont des espaces, quels sont des types de personnes qui peut-être vous agacent régulièrement? Est-ce que les jeunes, c'est les âgés? Est-ce que les âgés, c'est les jeunes? Est-ce que c'est peut-être des personnes à vos côtés, etc.? Ben, la parole de Dieu nous encourage à nous débarrasser de la colère et de nous revêtir de la maîtrise de soi, de la patience. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour être encore plus patient envers la personne qui me met en colère? Parfois, vous êtes victime d'injustice et c'est ça qui vous met en colère. Deux encouragements dans Romains 17, je vous lis juste deux versets. À moi la vengeance, dit le Seigneur. Laissez-le gérer la vengeance, la condamnation de l'autre. Et toi, ta part, c'est ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Il va nous donner un autre exemple. Ah oui, et la motivation, pardon. C'est qu'il dit, ne laissez aucune place au diable. Laisser la colère s'installer dans ma vie, c'est laisser le diable avoir une ouverture. Et à un moment, tu ne sais pas pourquoi, tu es tellement envahi par la colère, tu n'arrives plus à t'en défaire, tu n'arrives même plus à pardonner. Dès qu'on va te parler de pardon, tu vas le voir. Et vous savez, un des espaces, malheureusement, où je le vois parfois, c'est dans le couple, où j'accompagne des couples. Et en fait, la colère s'est accumulée. Au fil des semaines, des mois et des années, elle n'a pas été traitée, on n'a pas voulu la régler. Et quand j'arrive, parfois, il est trop tard. La colère est trop installée, les blessures sont trop fortes. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit non, ne laissez pas la colère s'installer. Ça peut être vrai aussi dans les relations d'église. Et regardez ce que dit la parole de Dieu. Regardez chapitre 5, verset 15. Si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Donc, fuyons la colère. Et laissons la parole de Dieu nous remplir de patience et de bonté envers les autres. Il parlera de générosité plutôt que de dérober. Celui qui voulait cesse de dérober, qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Si j'accompagne quelqu'un qui a besoin d'apprendre à ne pas voler, ne pas être malhonnête, ben, je l'encourage à être bien au contraire, plutôt honnête, donner et offrir aux autres. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous encourage. Je passe rapidement sur cela, pour, quand même pour faire attention au temps. Intéressant aussi, je m'apprête un peu plus sur celui-là, des paroles édifiantes plutôt que des paroles malsaines. Regardez ce qu'il dit. « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. » Les paroles malsaines, ça peut être, et les paroles en général peuvent vraiment faire beaucoup de dégâts. Vous le savez ça, n'est-ce pas? Et ce qui est triste avec la parole, c'est que ça peut faire des dégâts intérieurs invisibles. Il y a des enfants qui vivent des moments difficiles en étant battus. Et merci Seigneur, en France, il y a vraiment ce souci de faire attention, j'ai vu une blessure, j'ai vu des bleus, et donc il y a toute une procédure qui peut se mettre ensemble pour vérifier que l'enfant n'est pas battu et ne subit pas des sévices corporels trop violents. Par contre, les blessures intérieures, ça ne se voit pas forcément tout de suite. Ça s'accumule. Et la parole de Dieu nous encourage à être prudents vers cela. Et on est en train d'étudier Samuel dans l'église de Lani. Et il y a cet épisode de Élie, le grand prêtre Élie, qui voit Anne venir prier à côté du temple. Et là, Élie, ce qu'il dit, vous savez ce que Élie, qui est un prêtre, un religieux, en voyant cette femme qui est en train de prier, en fait, il ne savait pas qu'elle priait, il voyait juste sa bouche bouger, et ben voilà ce qu'il dit. « Va cuver ton vin ailleurs. » Oh là là, c'est chaud. Ça veut dire qu'il la voit, il la traite de soulard, d'ivrogne, et il lui dit « Je ne veux pas te voir au milieu de chez nous. » Quelle parole dure! Et ce que ça m'a rappelé, c'est que nous aussi, parfois, moi aussi, parfois, je peux avoir des paroles dures envers les autres. Et on demande au Seigneur, « Seigneur, permets-moi qu'aucune parole malsaine ne sorte de ma bouche. » Premier espace, encore une fois, ça peut être le couple, ça peut être la famille, le travail. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Mais je dois me revêtir du contraire. Et Élie, après, quand il a compris qu'il s'est trompé, il s'est revêti du contraire. De bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Et je me rappelle de cet ami on faisait un travail à la fac de théologie et chacun racontait un peu son parcours spirituel et il raconte ce moment marquant quand il était ado où quelqu'un lui dit bravo, c'est super et il dit j'ai l'impression que c'est la première fois que quelqu'un me dit que j'ai fait quelque chose de bien. Et ça m'avait marqué, ça, je me suis dit waouh, voilà, ça l'avait marqué, c'était 10 ans après qu'il nous raconte cette histoire. Donc que le Seigneur fasse de nous, fasse de vous des hommes et des femmes qui édifient l'autre et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Une motivation pour faire attention à nos paroles. Parfois, on veut chercher la plénitude du Saint-Esprit, mais il nous dit, attention, tu peux chercher la plénitude du Saint-Esprit d'un côté, mais si tes paroles ne sont pas prudentes, eh bien, tu peux attrister le Saint-Esprit. Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit en donnant des paroles qui ne sont pas les bonnes. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, donc ça, c'est le verset 31, colère, éclat de voix, calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons, pleins de compassion envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Et là, vraiment, il nous dit, tu prends tout ça, tu le ramasses, tu récupères. Vous savez, quand il y a une salle, à chaque fois, j'imagine c'est le cas aussi ici, à chaque fois qu'on finit un grand événement, comme la semaine dernière avec notre église, un repas tous les mois, et ben hop là, on ramène tous les trucs qui sont par terre, ce que les enfants ont laissé, on ramène tout au milieu, tous les déchets, etc., tout ce qui est tombé, les petites miettes, on met tout dans la poubelle et on jette. Ben c'est la même image, les amis, pour l'amertume, pour la fureur, pour la colère, l'éclat de voix, les calomnies. On prend tout ça, on balaye dans l'église, on met tout ça dans la poubelle et on jette. Et vous avez vu, c'est graduel, hein, l'amertume, fureur, puis la colère, puis l'éclat de voix, puis la calomnie. Tout ce qui est méchant devant nous, on le prend. Et on revêt de quoi? On revêt de bonté, de compassion, les uns envers les autres. Et notre motivation pour avoir cette attitude, et c'est vrai que dans les relations, souvent, ce qui va faire que c'est difficile de faire du bien à l'autre, c'est que je n'ai pas pardonné. Quand je vais encourager d'autres à bien agir envers un frère, envers une sœur, et ben il va dire « Oui, mais tu sais ce qu'il m'a fait quand même ? Ah non, mais comment tu veux que je sois bienveillant envers lui alors que lui, il a mal parlé de moi ?» Souvent, j'ai le reproche, j'ai l'amertume, j'ai la rancœur qui reste là et qui fait que ça bloque ma capacité à faire le bien. Si j'ai du mal à faire le bien à l'autre, peut-être que j'ai quelque chose contre lui. Et ça, je l'ai vu très souvent dans ma vie, quand je suis appelé à faire du bien à une personne, à la considérer positivement, et que j'ai du mal, en fait, c'est que je lui en veux encore, peut-être pour quelque chose qu'elle a fait. Et la motivation, elle est là, regardez. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. C'est ça qui doit nous motiver à faire du bien. C'est ça qui doit nous motiver à faire du bien. Parfois, il y a des situations où des personnes vont mal m'accueillir ou mal me parler. Et puis je dis, ah, mais franchement, cette personne-là, c'était un pasteur qui me disait, c'est vrai que dans certains services d'administration, c'est marqué accueil, mais la personne est tout sauf accueillante. Et donc, je dis, oh, ouais, tu aurais dû enlever la pancarte en haut, monsieur. Hein? Parfois, je me surprends à avoir cette attitude envers des personnes. Mais quand je me rappelle ce que moi, j'ai vécu, en fait, j'ai été pardonné par Jésus. Moi qui avais beaucoup de fautes, moi qui avais beaucoup d'attitudes qui étaient malsaines, Dieu, il m'a entièrement pardonné. En plus, après, il me met à son service. Qui suis-je pour reprocher à l'autre quelque chose qu'il m'a fait alors que moi-même, j'ai fait bien pire à Dieu. Voilà la motivation que Dieu veut qu'on se rappelle quand on est en proie à peut-être une petite injustice ou peut-être de la calomnie ou autre chose. Et les amis, je ne sais pas quel est votre cas ce matin. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous charge dans votre cœur de ce que des personnes ont fait envers vous et qui font que vous avez envie de tomber dans l'amertume, de tomber dans la colère, de tomber aussi dans la calomnie. Comme ce client qui me traitait très durement dans mon ancien travail et quand je voyais ce qu'il me faisait subir, et que j'entendais mes autres collègues parler mal de lui, je faisais « Ah ah, oui !» J'étais content parce qu'on calomniait cette personne qui m'avait fait du mal. Et le Seigneur m'a repris. Il m'a dit « Non, non, toi, tu ne tombes pas là-dedans. Tu dois être toujours dans le pardon et l'amour de l'autre quand tu regardes à la croix de ce que Jésus a fait. » Voilà les amis, on a pu faire le tour ensemble de cette notion de se débarrasser de toute pratique malsaine et impure et de se revêtir de Christ. On l'a compris. Il y a trois grandes étapes. On veut voir ce que Dieu veut que nous puissions nous débarrasser. On veut se revêtir de l'homme nouveau et on veut se laisser transformer par nos pensées. C'est ce que je vous propose de vivre ensemble maintenant dans la prière. Peut-être que il y a des personnes qui ce matin vraiment se disent « Oui Seigneur, moi je veux vraiment vivre ça dans tel ou tel domaine. » Et je vous propose de commencer déjà par, comme Paul l'a fait dans Éphésiens, c'est de nous rappeler de la grâce merveilleuse que Dieu nous accorde en Jésus. Vous êtes comblés en Jésus, c'est ça qui va vous aider. Qu'on puisse choisir de fuir, là ce matin, toute vie malsaine et impure qui n'honore pas Dieu. Qu'on se laisse transformer dans nos pensées, nos motivations, et qu'on agisse en cohérence avec ce que Dieu veut. Et ayez cette assurance, les amis, vous pouvez compter sur la grâce de Dieu pour vivre cette vie nouvelle, parce que vous avez la vie de Dieu en vous. Elle est créée selon Dieu et il a mis son esprit en vous pour vous donner la force d'aimer, faire du bien. Et je vous propose maintenant de prier dans ce sens-là. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce immense. Merci parce que oui, par ta grâce, nous pouvons aimer, nous pouvons pardonner, nous pouvons arrêter de nous mettre en colère, nous pouvons nous débarrasser de nos mauvaises pensées. Et je te prie encore de pardonner nos cœurs maintenant, de nous aider à nous débarrasser de ce vieil homme. Nous reconnaissons que c'est mauvais et nous disons pardon. Nous voulons nous laisser renouveler aussi par l'Esprit en nous rappelant qui nous sommes en toi ce matin. Nous sommes enfants de Dieu. En nous rappelant qui tu es. Tu es notre Père et tu es celui qui est le Dieu Saint. En nous rappelant qui tu as mis en nous. Tu nous as mis le Saint-Esprit. Cette capacité pour avoir cette capacité de faire face et de marcher dans ta volonté. Et enfin, nous voulons nous revêtir de l'homme nouveau et agir en conséquence. Dire « Seigneur, oui Jésus, je veux agir avec amour dans tous les espaces que tu me demandes. Pardon pour les fois où je n'agis pas avec amour. Je veux agir avec bienveillance et bonté envers mon prochain. Je veux être un homme et une femme consacrés à toi. Je veux agir dans mon temps, dans mon énergie, dans mon argent, pour ta gloire. Et je veux faire ta volonté. Et Dieu Tout-Puissant, je te prie aussi de nous aider à accompagner celles et ceux qui ont besoin d'aide dans ces domaines-là, qui peut-être luttent depuis des années dans certains travers, et ils ont juste besoin d'entendre l'évangile de Christ qui nous libère. Merci parce que ce que tu fais encore ce matin, en ton nom. Amen.